Où en es-tu avec Mérimée ?
Il me doit 10 sous.
Tiens, s'étonnait l'aîné.
Oui, repartait le cadet, mais moi je redois 3 francs.
Sur qui ?
Sur un Victor Hugo.
Quel volume ?
Chansons des rues et des bois. Et je ne sais quoi d'autre.
Ah, le chameau !
Et encore, triomphait l'aîné, tu as dû lire ça à la va-vite. Verse les 3 francs.
Où veux-tu que je les prenne ? Je n'ai pas le sou.
Demande à maman.
Oh !
Demande à papa. Dis-lui que c'est pour acheter des cigarettes et que tu les lui demandes en cachette de maman. Il te les donnera.
Mais s'il ne me les donne pas ?
Alors, à l'amende. 5 sous pour le retard. Les deux sauvages, qui lisaient comme autrefois lisaient les adolescents de 14 et de 17 ans, c'est-à-dire avec excès, avec égarement, le jour, la nuit, au sommet des arbres, dans les fenils, avaient frappé d'interdit le mot « mignonne », qu'ils prononçaient
« mignonne »
avec une affreuse grimace tordue, suivie d'une imitation de nausée. Recensé dans chaque livre nouveau, chaque
« mignonne »
voué à l'exécration, créditait de 2 sous une cagnotte. En revanche, un livre vierge rapportait 10 sous à son lecteur. Le contrat jouait depuis 2 mois et l'argent, s'il en restait au bout du semestre, paierait des bombances, des filets à papillons, une nasse à goujons. Mon jeune âge, 8 ans, m'écartait de la combinaison. Au dire des deux frères, il y avait trop peu de temps que je ne grattais plus pour les manger. Au long des chandelles, les coulures en forme de longues larmes. Et les deux garçons m'appelaient encore « enfant de Cosaque ». Pourtant, je savais dire
« mignonne »
en tordant la bouche et m'efforçais ensuite de vomir et j'apprenais à côté des romanciers selon les nouveaux statuts. « Dickens rend beaucoup », disait un sauvage. « Dickens ne devrait pas compter », rechignait l'autre. « C'est une traduction. Le traducteur nous empile. Alors Edgar Poe non plus ne compte pas ?»« Le bon sens commanderait d'exclure aussi les livres d'histoire, qui paient 10 sous à coup sûr. La Révolution n'est pas
« mignonne ».
Bleh ! Charlotte Corday n'est pas
« mignonne ». Bleh !
Mérimée devrait être exclue en tant qu'auteur de la chronique de Charles IX.
Alors qu'est-ce que tu fais du collier de la reine ?
Il joue. C'est du roman pur. Et les Balzac sur Catherine de Médicis ?
Tu parles comme un enfant. Il joue.
Ah non, mon vieux, permets. Mon vieux, je fais appel à ta bonne foi. Tais-toi. On marche dans la rue.
Ils ne se disputaient jamais.
Allongés sur le faîte du mur, ils y cuisaient au soleil d'après-midi, discutaient avec feu et sans injure, et me concédaient une portion de la dalle fêtière doucement inclinée. De là, nous dominions la rue des Vignes, venelle déserte qui menait au jardin potager éparpillé dans le vallon du Saint-Jean. Mes frères se taisaient, subtilement, au plus lointain bruit de pas, épousaient le mur en s'aplatissant et tendaient le menton au-dessus de l'ennemi originel. Leur semblable.
Ce n'est rien, c'est Chebrier qui va à son jardin, avertit le cadet.
Ils oublièrent un moment leur débat et laissèrent passer sur eux l'heure encore chaude, la lumière oblique. D'autres pas, nets et vifs, sonnèrent sur les silex bossus. Un corsage lilas, un buisson de cheveux crêpelés, d'un rose de cuivre, éclairèrent le haut de la rue.
Ouh, la rousse ! Souffla le cadet. « Ouh, la carotte !»
Il n'avait que 14 ans et voulait du mal aux filles, qui l'éblouissaient d'une lumière trop crue. « C'est Flore Chebrier qui rejoint son père, » dit mon frère aîné, quand l'or et le lilas s'éteignirent en bas de la rue. « Elle a joliment changé. » Son cadet, couché sur le ventre, posa son menton sur ses bras croisés. Il clignait par mépris et gonflait sa bouche, qu'il avait ronde et renflée comme les petites éoles des vieilles cartes marines.
« C'est une carotte, c'est une rouge. Au feu !» cria-t-il avec une grossièreté d'écolier jaloux.
L'aîné haussa les épaules. « Tu ne t'y connais guère en blonde, » dit-il. « Moi, je la trouve très...
mais très, très mignonne. »
Un gros rire de garçonnet enroué de mu salua le mot maudit que caressait la voix rêveuse de l'aîné, le séducteur aux yeux pères. J'entendis une bousculade sur le mur, les clous des souliers raclant la pierre, une chute molle de corps liée sur la terre accueillante et sarclée au pied des abricotiers. Mais ils se délièrent aussitôt avec une hâte sage. Ils ne s'étaient jamais battus ni insultés. Je crois qu'ils savaient déjà que ce bouquet de cheveux roux, ce corsage lilas, merveilles accessibles,
ne devaient pas compter parmi leurs enjeux indivis, leur délectation baroque et pudique. D'un pas bien accordé, ils s'en retournèrent vers les étaloirs de Liège où séchaient les macaons, vers la construction d'un jet d'eau, vers un système d'alambic à distiller la menthe des marais, instrument capricieux qui enlevait aux produits distillés le parfum de la menthe, mais lui laissait intacte l'odeur du marécage.